Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob.
Le blob,
le blob,
blob,
un blob sauvage.
Le blob,
oui, oui, j'en ai plein.
Et quoi, c'est réellement un organisme.
Le blob, extension du domaine des luttes
et des imaginaires.
Une émission de la Maison du Livre
en partenariat avec Zara ASBL et Radio Panique.
Émission numéro 4.
Comment nommer une créature dont on ignore à quel règne elle appartient ? Ni animal, ni végétal, ni champignon. Physarum polycéphalum, tel est son nom. Un nom scientifique qui fleure le laboratoire, l'exclusion des non-initiés. On l'appelle aussi blob, terme plaisant hérité d'un film de série B et qui a rendu notre créature populaire. Les scientifiques eux-mêmes ont adopté cette appellation, peut-être parce qu'elle facilite la publicité pour leurs recherches. Si l'astronaute Thomas Pesquet avait emmené des Physarum polycéphalum dans la Station Spatiale Internationale, on en aurait sans doute moins parlé. Le terme blob n'est pas genré, il est en tout cas non-binaire, puisqu'on recense quelques 750 types sexuels distincts. L'état de la recherche ne permet pas de déterminer s'il existe des discriminations ou des rapports de domination entre ces types. Il est néanmoins permis de penser que les multiples combinaisons offrent au blob une garantie d'indifférence, voire l'occasion de joyeuses explorations dans le respect mutuel. On observe du reste une certaine adelphité entre les blobs. Pour celles et ceux qui l'ignorent, le mot adelphité est l'équivalent générique de fraternité et sororité sans connotation de genre. Serait-ce un abus de langage de prêter à un être unicellulaire des intentions, un caractère, un comportement ? Les éthologistes n'hésitent pas à parler au sujet des blobs de prise de décision, évaluation des risques, expression de variabilité individuelle, particularité géographique. Comment trouver les mots pour décrire une créature irrémédiablement muette qui ne ressemble à aucune autre ? Et si, lorsque nous parlons du blob, nous parlions de nous-mêmes ? Le blob, c'est aussi le nom de l'émission qui raconte l'extension du domaine des luttes et des imaginaires. Pour ce quatrième épisode, il sera question des mots, de leur multiplication, de leur confrontation et de leur intégration. En compagnie des linguistes Marie-Ève Damard et Michel Francard, des anciens professeurs de français et auteurs d'un spectacle sur l'orthographe Arnaud Hout et Jérôme Piron, et avec une interview de Rosa Gasquet des Lézards Urbains.
Bienvenue à cette table ronde où nous allons parler de la langue, du droit ou du devoir de la renouveler. Cette table ronde s'inscrit dans un double cadre. D'une part, dans l'exposition « Tu vas trinquer San Antonio » qui a lieu pour le moment à la Maison du Livre et jusqu'au 23 juin. San Antonio qui s'est amusé avec la langue sans la moindre retenue. D'autre part, la table ronde s'inscrit dans l'émission, le quatrième épisode du Blob. Nous allons donc aborder la langue à la fois comme terrain de lutte et comme terrain de jeu. Nous serons sans doute entre Babel et Bablute. Pour commencer, pour introduire, je propose que Pierre nous lise un texte de San Antonio. Un texte qu'il a, une lettre à ses lecteurs qu'il a intégrée dans un des épisodes de San Antonio de 65, paru juste après le premier colloque universitaire dédié à San Antonio.
Chers vous tous, depuis le temps qu'on se pratique, on a fini par bien se connaître. L'univers san-antonien que causent les journaux, on se l'est enfin mis au point. Et on a une façon bien à nous maintenant de se parler et de se comprendre. Il a fallu du temps. Because tous les tordus qui m'ont précédé s'étaient caillés la laitance à la grammaire, le vocabulaire et tout le bings littéraire. Entortillés, serrés nous étions tous, pas moyen de broncher. Ils nous tenaient à merci, les boy scouts du bon langage, les archers du participe passé. Il n'y avait pas moyen de faire des gosses à la langue, comme dit Escarpite, car ils nous auraient embastillés tout de suite pour crime de lèse littérature. Défense de déposer des néologismes dans la cour sous peine d'amende. Ils avaient Voltaire à portée de la pogne pour nous l'asséner. Fallait donc y aller à pas de loup. les feintés en canard se glissaient à la sournoise sous couverture policière. On a fait une arrivée en chemin de fer. Quoi ? En investissant les gares. On s'est assuré des alliés sûrs, les jeunes de chez nous, sans lesquels rien ne se fait ni se défait. Célébré dans les revues à grande gamberge, acclamé par les profs de faculté qu'il est maintenant, Sana, créateur d'un nouveau langage à ce qui paraît, avec du génie plein la musette, Béru, Matan, Rabelais, K.O. On assiste, c'est officiel. Grâce à mes petits copains, on a conquis presque tous les bastions. Les madames visionneuses, les croulants, les super intellectuels, le bas clergé, la haute finance, les gangs petits et le commerce de gros. Il n'y a plus qu'un coin de bourgeoisie cubénite qui renacle encore et qui s'enferme dans les cagouins pour me savourer. Et puis, of course, les illustres écrivains, pour qui la concordance de temps compte davantage que l'émotion du mot ou la vigueur de la phrase. Patience, on les annexera aussi, je te promets. On va leur faire péter au nez la langue française à tous ces pisse froids, ces pisse tristes, ces pisse peu. C'est une fière luronne, les gars, cette langue française. Seulement, elle en a marre d'être respectée. Elle s'engourdit, se stérilise. Elle aimerait des claques sur les fesses, comme toutes les vraies femelles.
Une bonne entrée en matière pour les différents sujets que nous allons aborder. Alors, San Antonio, c'est quelqu'un qui a aussi inspiré un de nos invités. Arnaud Hout, tu es un ancien professeur de français et tu as à l'époque travaillé pas mal avec tes élèves autour de Rabelais, de San Antonio, des textes de rap. Vous vous êtes, je crois, beaucoup amusé avec la langue. Est-ce que tu peux nous relater un peu ces expériences et voilà, comment vous avez joué et avec San Antonio et avec les mots?
Tout à fait, oui. En fait, il se trouve que j'ai récupéré les élèves en cinquième, j'étais dans un institut technique et professionnel, donc c'est des élèves qui avaient déjà eu parfois des déconvenues avec le cours de français, qui avaient déjà été partiellement réorientés, notamment parfois à cause de problèmes de français. Et il se trouve que la théorie des registres de langue qu'on enseigne encore assez régulièrement, qu'on enseignait en tout cas encore assez régulièrement en primaire à l'époque, avait beaucoup configuré dans la tête de mes élèves l'idée qu'il y avait des bons mots, qu'il y avait des mauvais mots, et que les bons mots c'était ceux de l'école, et que les mauvais mots c'était ceux qu'ils utilisaient à la maison, en famille et ailleurs. Et donc l'idée c'était un peu de les réconcilier aussi avec leur propre langue, et voire même avec des langues qui n'étaient pas les leurs, mais qui étaient plus locale, plus vernaculaire, plus populaire, plus enfin diverse en fait, en gros de leur montrer qu'il n'y avait pas de registre, qu'il n'y avait pas de hiérarchie réelle entre les registres de langue, que la langue variait sociologiquement, historiquement. Et donc du coup, bah oui, San Antonio c'est une fourmilière de mots qui ne leur ressemblaient pas, puisque ce n'était pas leur époque évidemment, pas du tout, mais qui pouvaient les faire rire, les faire rentrer là-dedans, notamment dans le parallèle avec Rabelais, qui lui-même avait la même attitude par rapport aux mots, c'est-à-dire qu'on travaille Rabelais, mais je leur faisais lire un San Antonio au choix, donc ce qui était pratique aussi, puisqu'il y avait quand même un choix assez colossal. Et après, on essayait de voir un peu le travail sur le vocabulaire qui passait aussi par la langue de Céline, tout ce travail sur la langue. Il y a une vraie tradition française dans ce rapport à la liberté lexicale. Et oui, ça les amusait pas mal. Et puis ça m'amusait surtout moi beaucoup aussi, parce que c'est quand même l'essentiel quand on est prof, c'est que si on ne s'amuse pas, on n'amuse pas les élèves, et donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir les faire tremper dans quelque chose qui relevait, et c'est là qu'on voit le rapport aussi avec le... En fait, je m'étais rendu compte assez vite qu'ils écoutaient du rap, effectivement, à l'époque, et ils écoutaient toutes sortes de rappeurs. Alors moi, j'étais pas nécessairement familier de cette musique-là, mais le partage passait par là, c'est-à-dire que le vocabulaire qui venait de leur pratique langagière, quand on le valorisait, tout d'un coup, on se rendait compte qu'ils s'intéressaient plus au mien. C'est-à-dire que plus je m'intéressais à leur vocabulaire, plus ils s'intéressaient au mien. Et donc, il y avait un exercice qu'on faisait, par exemple, c'est qu'on avait un cahier de vocabulaire, comme dans tous les cours de français, hein, donc à l'examen oral en fin d'année, je les interrogeais sur des mots de vocabulaire qui étaient apparus dans le texte ou dans les textes qu'on avait étudiés. Mais j'avais aussi, moi, mon cahier de vocabulaire dans lequel je thésaurisais leurs mots, alors que ce soit des mots d'origine maghrébine, polonaise ou d'autres, mais aussi des mots du vocabulaire des jeunes, de la rue et d'autres, ou des rappeurs qu'ils abordaient. Et donc, ils avaient l'autorisation de m'interroger à l'examen sur mon cahier de vocabulaire à moi, quand je découvrais des mots comme schmett, schmetteux, ou enfin plein d'autres mots que j'ai peut-être déjà oubliés, puisque c'est vrai que le vocabulaire bouge beaucoup. Mais oui, l'idée c'était vraiment de rentrer dans d'aborder la question du vocabulaire par le partage, et puis aussi par la rigolade, parce qu'en fait, en gros, la création lexicale, elle est souvent une insurrection, elle est souvent une prise de position par rapport à une norme acquise. Et qui provoque le rire, en fait. San Antonio, c'est un de ses grands principes, c'est l'idée d'enfreindre. Tantôt, dans le texte, j'étais épaté par la dimension ambiguë du terme « piégé », qui est vraiment génial, parce qu'il dit « ma langue va vous péter à la gueule ». Donc, c'est comme si la langue était piégée, de San Antonio, et d'une certaine manière, il récupère le stigmate du piège, qui est un piège. Dans la langue française, on a le piège de français. On sait bien que les profs ont tendance à s'amuser avec les dictées, la grammaire, à piéger leurs élèves. Et donc, j'adore cette idée que San Antonio dise « Attention, moi aussi, je vais vous piéger avec ma langue, qui a une autre sorte de piège, plutôt libérateur, presque terroriste, j'ai envie de dire, dans le sens de sentiment où il résiste à un système global. » Je trouvais ça vraiment fascinant comme texte. Donc voilà, je faisais ça avec mes élèves et je m'amusais beaucoup. Et eux aussi, enfin j'espère. Disons que les lèche-bottes me disaient qu'ils s'amusaient beaucoup.
Je taille une bavette sur un banc avec le gars Frédéric Tard. Il a le rire d'un dieu et cette malice dans le regard. Me parie un kilo d'or contre l'ardoise d'un alcoolo. Que la mort est une belle gare, c'est qu'elle lit du San Antonio.
Le hip-hop a changé. C'est un style qui évolue tout le temps, c'est ça son intérêt. Il est devenu beaucoup plus musical, plus mélodique. Et on est dans une esthétique maintenant qui est plus, qui est peut-être moins moralisatrice. Ça raconte quand même la réalité des quartiers, mais de manière peut-être plus subtile, plus poétique finalement. Peut-être plus introspective aussi, quoi. Je donne un exemple. Il y a une phrase de PNL, donc voilà, PNL Bonnet, qui dit le miroir est net, mais le visage est brisé. J'ai l'impression qu'on est un peu à l'époque du haïku en rap, c'est-à-dire qu'on doit concentrer les phases. C'est-à-dire que les instrus de maintenant ne permettent pas de faire des grands textes très longs, il y a plus de vide, c'est plus chanté. Donc du coup, on doit faire de la poésie plus concentrée, quoi. Donc on enlève des mots, on enlève, par exemple, Booba dans les... C'est lui qui a commencé, il enlève tous les articles. Voilà, donc c'est plus crypté, c'est plus dense en fait.
Je traîne dans la cité bourrée de vis. J'ai la bouche pleine, pourtant je dois goûter le vide. Le miroir est net, le visage est brisé.
En fait, le rap, il est poreux en fait, à la langue des jeunes et la langue des quartiers. Et c'est là où la langue s'invente en fait. Donc, tu as ce mélange continu dans une super dextérité de prendre tous les apports. Donc, les mots d'arabe, évidemment, j'ai le seum, mesquine, voilà, qui sont complètement connus par les jeunes. Des mots qui viennent avec, par exemple, Aya Nakamura, qui est pas une rappeuse, qui est une chanteuse, mais enfin, qui vient des mêmes zones. Tu as tout le retour des mots romani. Pouki, Poucave. Moi, j'aime beaucoup les mots anciens qui sont remis. Par exemple, le mot charbonner, en fait. C'est super, l'histoire du mot charbonner. Ben, charbonner, c'est les charbonnages, c'est le travail difficile, c'est la mine à la base. Donc, charbonner, c'est travailler dur. C'est un mot qui était perdu. Et puis, ensuite, charbonner, ça a été je vais au charbon, je vais dealer, en fait. Voilà, je vais au charbon. Et maintenant, tous les jeunes, quand ils bossent, ben, je charbonne, quoi. Je vais bosser. Quand ma fille, elle bosse pour l'école, elle dit bon, t'inquiète pas, maman, je vais charbonner. Elle travaille avec un mot qui date des charbonnages. Enfin, voilà, donc ça fait ce langage qui est marginal. Donc, marginal parce que c'est le langage des jeunes et les jeunes sont marginalisés dans la société. Là, on l'a bien vu en ce moment. Et c'est le langage des cités, des quartiers populaires. Donc, c'est une langue qui est deux fois marginale. Et ce que fait le rap, en fait, c'est qu'il la popularise, puisque le rap est la musique la plus écoutée. Donc, maintenant, même les jeunes des classes moyennes parlent comme en cité, parce qu'en fait, c'est devenu le dictionnaire, le rap est devenu le dictionnaire à projeter la marge au centre. Ça peut être mi-figue, mi-raisin aussi, parce que maintenant, tu as les jeunes... classe moyenne qui s'habille en pauvre. Il y a à la fois une revanche et à la fois on sait très bien que la facture, elle reste. Et que certains peuvent s'habiller en pauvre, mais ils ne le sont pas, tandis que d'autres le sont. voilà, le clivage reste, mais en tout cas, c'est un lieu de créativité évident, quoi. C'est un espace, c'est là où ça se passe.
Nous allons maintenant donc venir à notre sujet, ce qui fait évoluer la langue. Il y a évidemment des phénomènes sociétaux qui peuvent la faire bouger, et là, je crois que nous en vivons un énorme. Michel Francard, vous êtes professeur émérite à l'UCL. Vous êtes, depuis un petit temps maintenant, chroniqueur pour le journal Le Soir. Vous faites une chronique dédiée aux mots et vous êtes aussi impliqué dans pas mal de réseaux qui réfléchissent sur l'évolution de la langue. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce qui fait évoluer la langue en termes de phénomènes de société ?
Puisque vous avez fait allusion à la pandémie actuelle, je dirais qu'effectivement, c'est certainement un de ces épisodes de crise qui oblige la société à trouver des mots adaptés à la situation qu'elle vit. Mais je vais quand même répondre en deux temps. Donc j'abonde d'abord dans ce sens-là, pour dire qu'effectivement, on a assisté depuis 2 ans maintenant, enfin un peu plus d'un an en tout cas, à une création lexicale avec de nouveaux mots, de nouvelles formes, de nouveaux sens. Donc ça, c'est la création assez classique, hein, des mots comme Covid, comme déconfinement, comme vaccinodrome par exemple, ou bien alors des sens nouveaux. Vous avez par exemple distanciation qui est devenue une dissociation non plus brechtienne, mais sociale, ou mieux physique si vous préférez. On parle maintenant de couverture vaccinale. Jusque-là, il y avait des couvertures nuageuses, mais enfin maintenant elles sont vaccinales. Des sens nouveaux pour confinement. Et aussi, phénomène intéressant, des mots techniques qui existaient déjà, mais au fond ils dormaient dans les dictionnaires, dans les catégories techniques. Donc par exemple, comorbidité, par exemple, ce n'était pas un mot qu'on utilisait tous les jours. Gel hydroalcoolique non plus, hein, bien entendu, ou geste barrière, etc. etc. Donc cette création classique, elle a eu lieu, je viens d'en citer quelques exemples, et certainement on ne peut pas la nier. J'ajoute qu'il y a eu aussi, parallèlement à ça, toute une série de créations sur le mode humoristique. C'est le mode qui nous permet de mieux vivre quand même dans des circonstances aussi dramatiques. Donc vous vous souvenez sans doute des corona-péros pour les corona-anniversaires, les corona-titudes, les personnes corona-sceptiques, les covidios, les covidiers, la mélancovide, etc., etc. Il n'y a pas de doute que dans cette deuxième catégorie, il y aura beaucoup plus de déchets que dans la première, ça c'est sûr. C'est pour conforter l'idée qu'effectivement une crise augmente le nombre de vocabulaire, de mots de vocabulaire dans une langue. Mais par ailleurs, je crois que c'est important de voir ça à l'échelle de plusieurs siècles. Et si on compare à d'autres crises antérieures ou d'autres éléments importants dans l'histoire de la langue, on se rend compte qu'au fond, ce n'est pas nécessairement les crises qui apportent le changement linguistique. Je prends 2 exemples rapidement. La Révolution française, par exemple. On doit quand même se dire que c'est une période qui a dû voir des changements fondamentaux dans le vocabulaire. Mais non, absolument pas. Il y a eu bien sûr, au moment même de la Révolution, une 10aine de pages dans l'édition du dictionnaire de l'Académie qui a suivi juste la Révolution en 1798. Mais de toute cette 10aine de pages, qu'est-ce qu'on a retenu ? On a retenu des mots comme guillotine, comme vandalisme et guerre d'autres. Autre exemple. La guerre 14-18, la Grande Guerre, avec ce fameux argot des poilus. Hein, on en a beaucoup parlé, San Antonio, on est dans le bain, là, ici. En fait, cet argot des poilus, il n'est pas né pendant cette guerre. En fait, c'est la guerre qui a révélé un argot qui était en train de se construire avec des influences, à la fois d'un français général, mais aussi d'un français plus provincial, etc. Et donc, j'ai envie de dire que les grandes évolutions, en fait, se font avec plutôt des phénomènes sociétaux du type exode rural, industrialisation, développement de technologie de l'information. Et ça, ce sont des processus qui ne durent pas quelques mois, mais des 10aines d'années.
Merci. Alors, je voudrais maintenant te donner la parole, Marie-Ève Damard. Tu es docteur en langue et lettres, professeur à l'ULB et professeur d'expression écrite en particulier. Et tu as réalisé un MOOC, Photomaton. Où tu recenses des fautes de français qui deviennent des figures de style. J'aimerais que tu nous parles d'abord du processus d'intégration, justement, des nouveaux mots dont Michel a parlé, nouveaux mots qui apparaissent. Comment ils apparaissent soit suite à un phénomène de société, soit suite à des lentes évolutions. Quel est le processus qui fait qu'ils vont être intégrés au dictionnaire, qu'ils vont être reconnus officiellement, et comment ça se passe pour ceux qui les ont émis, qui ne sont peut-être pas toujours d'accord d'être reconnus de cette manière-là.
Oui, en effet, Mathieu. Donc, tu parles du processus de lexicalisation, c'est-à-dire l'implantation progressive d'un nouveau mot dans l'usage. Donc, le nouveau mot, le néologisme, au départ, donc, c'est un mot qui n'existe pas, donc qui n'a pas de valeur officielle. C'est une faute alors, puisqu'on utilise un mot qui potentiellement risque de ne pas être compris. Vous utilisez un mot dont la personne qui vous écoute risque de ne pas comprendre le sens. Donc on fait la chasse au néologisme comme on fait la chasse à n'importe quel écart de style. Alors maintenant, certains mots s'implantent, hein, donc ils se répandent, soit parce qu'ils répondent à une nécessité sociale, hein, comme tous les termes liés à la pandémie dont Michel Francard vient de parler, et puis parfois bah, simplement parce que la langue évolue, donc des nouveaux mots arrivent, et certains ont la bonne fortune de s'implanter, d'être de plus en plus répandus. Et à un moment, le lexicographe décide de les faire entrer dans le dictionnaire. Donc ça, c'est le processus d'un néologisme chanceux qui progressivement prend sa place et finalement est considéré comme faisant partie du langage officiel, du langage normé. Donc il y a des différences seulement entre les dictionnaires. Tous les dictionnaires n'ont pas le même rapport face au néologisme. Et d'ailleurs, chaque année, vous savez, les dictionnaires sont édités avec entre 100 et 150 nouveaux mots. Et ce ne sont pas les mêmes si vous prenez le Larousse ou le Robert. Et donc ça, c'est intéressant parce que les lexicographes doivent faire des choix. Alors, quels sont les choix qui vont être faits par ces lexicographes? Comment vont-ils sélectionner? Il y a d'abord une base statistique. On va regarder les mots qui sont les plus implantés. Donc, ils vont s'attacher au discours et la presse, pour ça, relaie évidemment le néologisme et joue un grand rôle dans le processus de lexicalisation d'une forme. Et puis, il y a aussi une question d'évaluation plus subjective de la durabilité potentielle du mot qui s'implante. Et donc ça, Michel Francard en a touché un mot aussi. Alors, est-ce qu'on en a besoin ou pas? Parce que parfois, un mot progressivement remplace un autre et l'un de deux s'efface. Hein. Et donc parfois, le néologisme va remplacer un mot existant. Mais c'est plus rare. En général, ils prennent plutôt la place d'un mot qui n'existe pas. Et donc, si on prend par exemple quelques mots récents qui viennent d'entrer dans le Robert, on va prendre mitonner par exemple pour raconter des histoires. Alors on remarque qu'on préfère ici un mot simple, du premier groupe, un verbe en vers facile à conjuguer, plutôt qu'une périphrase, hein, raconter des histoires. Donc c'est plus court, c'est efficace. Bienvenue au mot mitonner. Maintenant, on verra si sa fortune va durer encore plusieurs années ou si les lexicographes vont décider dans 2 ans, dans 3 ans, de le retirer du dictionnaire parce qu'il n'aura pas eu vraiment beaucoup de succès. Voilà. Et donc, ce type de néologisme, on le reconnaît facilement puisqu'il est formé à partir d'un mot existant. Hein, donc là, on a fait un dérivé verbal à partir d'un nom, un mythe, mitonner. C'est plus difficile, évidemment, si le néologisme n'est pas compréhensible, hein, si le néologisme sort de nulle part et donc là, risque potentiellement de faire échouer la communication. Hein. Voilà. Donc là, il y a aussi la capacité à décoder la néologie. Donc là, plus on a suivi les bons cours de français dans son parcours scolaire, et plus on a des chances de, par exemple, comprendre ce que c'est la signification d'un suffixe. Hein, si je prends le mot « garer la voiture », je vais dire « tiens, est-ce que tu pourrais dégarer la voiture ?» Si c'est un néologisme qui est créé à partir d'un suffixe qui est inversif, « des », si vous savez ça, intuitivement en général, on le comprend, et donc on peut considérer que c'est un néologisme qui a une bonne raison de s'implanter puisqu'il ne correspond pas à un mot existant et qu'il a tout à fait sa place dans l'usage.
Est-ce qu'il n'y a pas des néologismes ou des nouveaux langages qui se veulent coder, justement, pour ne pas être compris des autres?
Ah, mais c'est le cas du langage des jeunes, par exemple. Ouais, par exemple. Hein, c'est des groupes sociaux qui essayent de se démarquer et qui sont parfois récupérés. Hein, on va prendre un exemple qui vient de rentrer, c'est « j'étais refaite ». Quand ma fille dit aujourd'hui « oh, j'étais refaite », ça veut dire « j'étais heureuse ». Ça vient de rentrer aussi dans le Robert, ça, cette année, « j'étais refaite ». Et donc ça, c'est typiquement un usage qui est un petit peu original et qui est utilisé, je veux dire, par les jeunes pour se démarquer et qui s'implante et finalement est récupéré par la norme, et ce qui est peut-être pas le but au départ, hein, parce que beaucoup de langages créés par des groupes sociaux sont créés dans le but justement de créer une rupture avec l'ordre établi. Et donc s'il y a une récupération par la norme, il y aura de nouvelles formes, encore peut-être plus créatives, pour échapper à cette récupération. Et donc là, il y a presque quelque chose de politique dans le fait de se positionner linguistiquement avec des néologismes.
Merci. Alors, les jeunes, effectivement, inventent leur code, leur langage. Ils inventent aussi, maintenant, surtout avec les textos égaux, leur propre orthographe. C'est peut-être un enjeu à aborder aussi sur le fait de faire évoluer la langue, c'est la simplification orthographique. Jérôme Piron, tu es un ancien prof de français comme ton collègue Arnaud Houd, et vous avez ensemble beaucoup réfléchi à cette question, à l'absurdité, à pas mal d'absurdités dans l'orthographe française. Vous en avez créé La convivialité, la faute d'orthographe, qui est à la fois un spectacle et un livre. Et donc, je pense que tu as pas mal de choses à nous dire sur les enjeux d'une simplification orthographique et d'une évolution de la langue dans ce sens-là.
Oui, alors la première chose que je voudrais dire, c'est de bien distinguer l'évolution de la langue et l'évolution de son orthographe. C'est vraiment deux phénomènes très différents. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une langue qui évolue en créant de nouveaux mots, en modifiant sa syntaxe, même si ça prend plus de temps, mais tout en gardant la même orthographe, c'est-à-dire la manière de transcrire cette langue. Vous pouvez donc avoir une évolution de la langue et que l'outil qui sert à la transcrire n'évolue pas. C'est exactement ce qui se passe en français. C'est-à-dire que le français oral, ou la langue française en général, vit, change, évolue, mais le code pour la retranscrire est sclérosé, empêtré dans une sorte d'ère glaciaire depuis au moins 150 ans. Et donc on assiste à une distance de plus en plus grande entre cette langue et l'outil qui sert à la retranscrire. Et les enjeux alors le mot simplification est piégé. Parce que quand on dit simplification, on a l'impression que l'intention avec laquelle on modifierait l'orthographe, ce serait de rendre ça plus simple. C'est pas du tout le cas. La simplicité, elle est la conséquence d'une amélioration de l'orthographe. Donc l'objectif, ce n'est pas de rendre les choses plus simples parce que ce serait trop compliqué. Ça, c'est un peu prendre les gens de haut. L'objectif est d'être rigoureux avec l'orthographe elle-même. Parce que quand on l'observe en profondeur, on constate qu'elle recèle plein de choses qui peuvent être remises en cause. Et pour moi, l'enjeu principal d'une amélioration de l'orthographe, il y en a beaucoup, hein, mais moi, celui qui me tient le plus à cœur, c'est quand on se retrouve dans la situation, quand à peu près tout le monde, je pense, s'est retrouvé un jour dans cette situation, où un enfant pose la question, tiens, mais pourquoi ? Pourquoi on écrit ça comme ça ? Et on est très embêté, et on a beau être quelqu'un qui aime expliquer, qui veut développer l'esprit critique, etc., on en est réduit à un « c'est comme ça ». Parce que. Et pour moi, une orthographe améliorée serait une orthographe où les raisons pour lesquelles les choses s'écrivent comme elles s'écrivent sont accessibles à l'intelligence des gens. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir comprendre pourquoi un mot est écrit comme il l'est. Et on pense souvent que les mots sont écrits de cette façon pour de bonnes raisons parce qu'on ne les connaît pas. Et effectivement, il y a plein de raisons qui sont bonnes. On peut avoir envie de mettre des traces étymologiques, par exemple. Personnellement, c'est pas une des raisons que je préfère, mais même si on prenait cette raison-là, c'est mal foutu. Les traces ne sont pas mises de manière logique. Par exemple, vous avez un H à choléra et vous n'en avez pas à colère, alors qu'ils ont la même étymologie. On devrait mettre un H à mécanique et mettre un F à nénuphar, un I à style et ne pas mettre de D à poids, si on voulait vraiment respecter l'étymologie. Mais on peut faire une autre réforme, une réforme qui irait plus dans le sens de l'oral, qui irait plus dans le sens de la retranscription des sons. Mais ce sont des choix, mais quels que soient les choix, il n'y a pas de cohérence globale dans le système, et c'est pour ça qu'on ne peut pas l'expliquer.
Elle était une fois, dans un royaume lointain, très trop lointain, quoi, nommé la matriarcate. Une cardinale à la robe rouge. La couleur si rouge de sa robe était certainement due à l'exhibition aux quatre coins cardinaux, justement, de ses abondantes, excellentes menstruations éminentes. Et c'est ainsi qu'on l'appelait Votre Éminence. Elle portait matronyme de Richelieu, la soie. Elle avait créé le rassemblement de ses copines qu'elle avait appelé l'Académie française. Et qui, oh, des siècles après, allait encore casser les nombreux les hommes. Dans ce groupe de copines académiciennes, désormais autonomées avec cette humilité qui devait les caractériser toujours, et ce, malgré les preuves récurrentes de la contraire, les immortelles étaient une fois une grammairienne. Nous la nommerons Claude Fabre de Vaujas. Celle-ci trouvait que la langue que l'on parlait alors dans ce pays n'était pas encore assez sexiste, sachant que le langage est éminemment politique et structure la pensée. Elle avait érigé la règle géniale de la féminine l'emporte sur la masculine. Au prétexte que la genre féminine est la genre la plus noble, ça se voit. Argument irréfutable, hein, c'est l'on est, vous en conviendrez. Ainsi, fille de la règle de proximité, désormais, pour bien parler française, l'on se devait de dire « les femmes et les hommes sont belles ». Ainsi, fille de la règle de majorité, l'on était tenu de dire « la reine Louise XIV et son harem de 10 000 courtisans sont assises ».
C'était un bref extrait du spectacle de Tiphaine D, Conte à rebours.
Il y a évidemment une question politique majeure qui tourne autour de cette évolution de la langue, c'est celle de la reconnaissance des minorités et de la minorité majoritaire qui est celle des femmes, la reconnaissance de l'égalité de genre à travers la langue comme à travers la société. Nous n'allons pas débattre du pourquoi, nous sommes concertés et nous sommes ici autour de la table ronde toutes et tous d'accord sur le fait qu'il faut aller dans ce sens. Maintenant, comment? Et déjà, comment aller vers un générique? Comment nommer déjà la chose? Est-ce qu'on parle de féminisation, d'écriture inclusive? Tu disais, Jérôme, que la simplification n'était déjà pas le bon mot, donc voilà, peut-être que tu commencerais sur la manière de nommer cet enjeu de la reconnaissance de l'égalité de genre, et puis on rentrera dans le comment.
Ouais, c'est, merci pour la question piège, hein. C'est vraiment la pire, quoi. Parce que cette question-là, charrie la question de comment on nomme, c'est déjà quelque chose qui est à la base de la réflexion d'à peu près tous les linguistes, de manière générale. Alors quand on pose la question de comment on nomme ce qui concerne une chose aussi politique que l'écriture inclusive, j'utilise ce mot-ci pas parce que c'est le meilleur, mais parce que c'est d'après moi simplement le plus courant, j'ai pas de jugement dessus pour le moment, tous les mots qu'on utilise vont être piégés et vont être difficiles et vont être l'enjeu de débat. Par exemple, la règle du masculin qui l'emporte, ça c'est quelque chose qui fait hérisser les cheveux, parce que on entend tout de suite quelque chose d'autre derrière. Il y aurait d'autres manières de formuler la même règle. La question c'est, est-ce qu'il faut reformuler les choses? Il faut utiliser une forme non marquée plutôt qu'un masculin, ou bien il y a plusieurs manières d'aborder la chose, ou bien est-ce qu'il faut changer la règle elle-même? Ça c'est des débats mais extrêmement compliqués. En tout cas, sur la manière dont on appelle les choses, c'est le terrain miné, quoi.
Oui, je crois que c'est important, enfin pour des linguistes certainement, et peut-être aussi pour le grand public à un moment donné, de pouvoir quand même mettre des mots sur le changement qui est en cours. Donc tout simplement, parler de féminisation, par exemple, c'est quand même un mot important. Si on parle de visibilité, disons, des femmes à la fois dans la langue et dans l'espace social, autant nommer un chat, et dans ce cas-ci, c'est la féminisation. Je serais évidemment moins net pour des questions qui sont assez purement terminologiques, si vous me permettez l'expression. Qu'on parle de masculin générique ou de masculin neutre, de toute façon, dans tous les cas, on se trouve face à une étiquette qui est piégée. Ça, c'est tout à fait clair. Et on peut en imaginer d'autres. Je crois qu'on déjouera peut-être un petit peu le piège, mais réellement, la réalité est ailleurs. Je crois que ce qu'il faut peut-être plus proposer comme réflexion, c'est ce qu'il y a derrière comme enjeu. Et les enjeux derrière ce choix du masculin, c'est à la fois une reconnaissance d'un long passé, hein, qui remonte quand même pratiquement au XVIIe siècle, dans un cas comme celui-là, voir qu'à partir de ce moment-là, c'est une certaine vision de la langue qui s'est imposée, qui a été instrumentalisée, qui s'est traduite dans la langue, par rapport au genre masculin, qui effectivement, dans les faits, a reçu un poids, non pas qu'il n'avait pas avant, non, il y a une histoire qui est là derrière, effectivement, ça prolonge une histoire existante, mais la consécration en a été faite avec aussi des formules un peu malheureuses comme celle que Jérôme vient de rappeler, le masculin qui l'emporte sur le féminin. Donc déjà, réfléchir à cela me semble important parce que ça permet quand même de dégoupiller un peu la grenade malgré tout. Et d'autre part, voir un peu si, par rapport à cette situation de fait qui est celle de la langue française aujourd'hui, il n'y a pas moyen de voir alors le problème autrement, c'est-à-dire de jouer sur d'autres tableaux. Et c'est là que toute une série de propositions que l'on met sous l'étiquette
écriture inclusive sont quand même, je crois aujourd'hui, assez largement admises. Le recours à des formes épicènes, par exemple, une façon, hein, je dirais presque un style d'écriture qui pense au départ, non pas à transformer, mais à s'inscrire dans une démarche de visibilisation des marques féminines. Bon, ça, je pense que ce sont des choses qui peuvent faire partie d'un enseignement très explicite.
Oui, je pense qu'il faut aussi débunker, comme on dit aujourd'hui, un problème assez majeur sur la confusion qui a écrasé ce débat, c'est la confusion entre l'écriture inclusive ou la langue inclusive et le fameux point médian qui a cristallisé tous les anathèmes et toutes les peurs, y compris du côté des linguistes eux-mêmes, hein, qui, en fait, le point médian, qui est finalement une technique, vous voyez ce petit point qui remplace la double flexion, hein, donc petit point E point S, ou point ES en fonction de la technique qu'on adopte, en fait, il n'a jamais vraiment été question au départ d'en faire une technique d'écriture à proprement dite pour enseigner à l'école ou à mettre dans des romans ou dans des textes officiels. C'est vraiment au départ une technique d'abréviation qui a eu évidemment énormément de succès pour des raisons aussi politiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on l'utilise, on affirme, on montre une envie, on a une envie de montrer la présence du féminin marquée, pour le coup. Et c'est bien légitime d'avoir envie d'utiliser la langue pour exprimer des choses, pourquoi pas. Mais l'idée qu'on allait l'imposer à tous, qu'on allait en faire une règle obligatoire, etc., a vraiment vampirisé le débat et a fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les gens appellent écriture inclusive ce point médian qui, finalement, n'est qu'une technique d'abréviation à laisser à la discrétion de l'usage des gens qui veulent l'utiliser ou pas. Moi, je l'utilisais dans des prises de notes ou dans des choses comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il doit nécessairement être imposé à tout le monde. Donc, je pense qu'il a beaucoup joué l'arbre qui cache la forêt et tout d'un coup, on a vraiment un débat qui a été biaisé par ce point médian qui n'est quand même qu'une toute petite chose sans importance, vraiment.
Moi, personnellement, je trouve que ce sont des débats intéressants parce qu'ils permettent de faire parler de la langue et de voir combien les résistances des francophones sont grandes quand il s'agit de faire des évolutions, surtout quand elles paraissent peu naturelles parce qu'elles viennent pas de la langue elle-même. Elles viennent de revendications sociologiques qui sont tout à fait légitimes, comme je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, mais qui, dans les faits, sont parfois difficilement applicables. Et donc, on parle beaucoup de l'applicabilité de ces nouvelles règles et du fait que elles sont appliquées parfois de manière pas tout à fait homogène, parfois au sein d'un même texte, et qu'on peut finalement, pourquoi pas, envisager de jouer avec ça aussi. Ce serait peut-être un petit peu superstitieux encore une fois, mais pourquoi pas se dire, voilà, je peux mettre chers collègues ou chers et chers étudiants, et puis après, adopter le masculin générique parce que je trouve que c'est plus simple dans la suite du texte. Eh bien, ça dépend si on décide d'être attaché à une espèce de cohérence graphique ou pas. Je crois que là, ce serait peut-être une piste pour sortir en fait de ces débats, parce que si vous obligez les gens à le faire, déjà, ils n'ont pas envie de le faire. Hein. Et donc finalement, on a l'impression qu'on n'est pas dans un combat contre ici la visibilité des femmes, mais plutôt contre des changements de la langue qui paraissent peu naturels à l'ensemble des francophones.
Juste rappeler aussi que, quelles que soient les évolutions récentes, donc notamment dans le secteur de la féminisation, il y a une distinction importante qu'il faut rappeler, qui a été d'ailleurs évoquée déjà ici, mais entre les usages individuels sur lesquels il n'y a absolument aucune pression officielle, et alors certains usages de type plus administratif, par exemple, où là, il peut y avoir des arrêtés, par exemple, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui, à un moment donné, demandent que l'on applique la féminisation dans les documents administratifs. Donc, c'est là aussi un bel enjeu de débat. Hein. C'est comment est-ce que des décrets ministériels ou autres peuvent ou non faire bouger les choses. Je me souviens, quand on a lancé la féminisation, c'était donc en 93-94, c'était le Conseil de la langue française à l'époque, il y avait eu des débats passionnés, aussi passionnés qu'actuellement autour du point médian, et aujourd'hui je vois que tout ça c'est tassé. Mais ce qu'il y avait d'intéressant dans la démarche de l'époque, c'est que l'arrêté, le décret de la communauté française à l'époque, demandait que l'on ouvre la perspective, donc que l'on donne la possibilité de pouvoir utiliser cela. Tandis qu'aujourd'hui, on constate pour le moment un phénomène inverse. Donc les différentes mesures récentes prises notamment par le ministre Blanquer vont en sens complètement inverse. C'est interdire l'usage de ce qu'il appelle l'écriture inclusive, mais en réalité, c'est le point médian, comme on l'a bien rappelé.
Il y a déjà des points de débat plus globaux qu'on va garder pour la fin, mais j'aimerais qu'on rentre quand même un peu plus dans le détail. Bon, on a parlé des points médians qui ont vraiment focalisé l'attention et qui crispent beaucoup de monde. On a relativisé en disant que l'idée n'est pas de généraliser l'usage. Michel, tu parlais aussi de au sein même des règles actuelles de rendre la femme plus visible dans le texte. Moi, j'aimerais que d'autres s'expriment sur d'autres techniques qui sont proposées, l'accord de proximité, l'alternance. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes un peu d'accord avec cette idée de Marie-Ève que on pourrait choisir chacun au sein d'un texte, passer d'une forme à l'autre?
La question de base, c'est d'abord quel texte, dans quel contexte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans des textes officiels, il y a un enjeu de clarté, il y a un enjeu d'accessibilité, de lisibilité. Et puis la qualité d'une communication s'évalue toujours à l'aune du rapport entre l'émetteur et le récepteur de cette communication. Et donc, je pense que l'utilisation, par exemple, d'accords de proximité ou même la variation qu'on pourrait introduire dans différentes techniques à adopter qui ne se voudraient pas nécessairement cohérentes, mais en fonction de la personne à qui on s'adresse, on pourra tout à fait le faire comme un acte de création, de militantisme, ou voire même de variation délibérée. Mais dans certains autres contextes, la normativité, l'idée d'avoir une norme. Moi, je prends toujours l'exemple de l'orthographe, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que autant il y a un usage de la langue orale qui est assez mobile et que tous les gens qui veulent infléchir l'usage oral par décret, en général, on sait que ça n'est pas toujours très efficace. C'est-à-dire que les gens parlent quand même toujours un petit peu comme ils veulent, de toute façon. Par contre, pour l'orthographe, on a l'orthographe qu'on enseigne à l'école, en général, et donc on a peu d'usage, c'est-à-dire que les gens vont rarement faire varier l'orthographe de base, délibérément, en se disant, tiens, c'est ma liberté de le faire. Donc, je pense qu'avoir une certaine cohérence dans le code qu'on enseigne, et surtout avoir un code enseignable, un code accessible et un code bien pensé en amont par des gens qui connaissent l'ensemble des formes, par exemple, des linguistes ou autres, c'est plutôt profitable à l'enseignement d'avoir un code unique. Après, on peut enseigner la variabilité de la norme aussi aux gens en leur disant, mais on a un code unique pour communiquer si vous voulez avoir facile et avoir facile de cette formidable expression, donc avoir facile. Moi, j'ai facile d'écrire avec ce code-là. Et si vous voulez varier, vous avez aussi le droit, parce qu'on n'est pas là non plus. Enfin, il y a la norme de l'école, mais il y a d'autres normes qui se côtoient. Et donc, je pense que c'est important d'enseigner à la fois des normes et à la fois la liberté qu'on peut prendre dessus.
Alors, peut-être une relance pour Marie-Ève, parce que c'est un sujet que tu as abordé à propos des néologismes. Moi, si je fais un accord de proximité, comment m'assurer que mon destinataire ne va pas prendre ça pour une faute d'orthographe?
Bien là, ça fait référence à ce qui vient juste d'être dit, c'est que la construction du sens, elle se fait toujours par co-construction de l'émetteur, le récepteur, en passant par le code et le canal et le message. Donc voilà, ici, si vous ne décodez pas de faute, est-ce qu'il y a une faute? Si vous décodez la faute, c'est parce que vous pensez potentiellement qu'il y en a une. Est-ce que vous allez vous dire que cette faute est intentionnelle? Auquel cas, ce n'est plus une faute, parce que personne n'a envie de faire de faute. La faute, par définition, c'est quelque chose qui est à éviter, qui est à proscrire, qui vous fait passer pour quelqu'un qui ne maîtrise pas bien la langue. Et on sait combien c'est important de maîtriser la langue pour l'intégration sociale. Donc, c'est assez nécessaire. Mais donc, si personne ne décode la faute n'existe pas.
Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que dans le décodage commun d'une faute qu'on accepterait tous les deux dans la communication comme une licence ou une liberté qu'on se donne, on a pratiquement une définition de l'humour qui lui-même fonctionne absolument de la même façon, c'est-à-dire la possibilité d'enfreindre ensemble une règle qu'on sait problématique, mais qu'on enfreint de bon cœur et librement. Et donc, l'expression de la liberté passe par là. Donc, j'ai l'impression que dans le néologisme lui-même, si on le partage, il y a une définition de l'humour, ce qui fait le lien, évidemment, dans l'œuvre de San Antonio. J'adore ramener au sujet principal, je trouve ça super classe, de voir que l'humour lui-même est une manière de faire des néologismes intellectuel d'une certaine manière.
Toute la nuit, j'ai entendu mon chromosome en plus qui tournait en rond dans ma case en moins. Et le matin, je me réveille avec une envie irrésistible de tuer quelqu'un. Fallait que je tue quelqu'un. Mais qui tuer? Je sais qui tuer. Non, enfin, qui tuer? Non, pas qui tuer dans le sens qui tue, toi qui cherches qui tuer. Hein? Ou dis-moi qui tuer, je te dirai qui tuer. Oh ben qui j'étais, je le savais, j'étais un tueur, et un tueur sensible. Enfin, il fallait que je tue quelqu'un, j'avais personne à ma portée, ma femme était sortie. J'ai tué le premier venu. J'ai dit, je vais tuer le premier venu. Je prends mon fusil sur l'épaule, je sors. Et sur qui je tombe, le hasard fait bien les choses. Hein. Sur le premier venu. Il avait aussi un fusil sur l'épaule, il avait un chromosome en plus aussi. Il dit, salut, toi le premier venu. Ah, j'ai dit, non, pour moi le premier venu, c'est vous. Il me dit, non, je t'ai vu venir avant toi. Et de plus loin. Il me dit, ça t'ennuie pas que je te tutoie ? Il me dit, je te tutoie et toi, tu me dis tu. J'ai dit, si je dis tu as ce cœur, il va me tuer. Je lui dis, si on s'épaulait mutuellement. Il me dit, d'accord, alors on se met en joue comme ça. Puis il me dit, stop, 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 nous allions commettre une irréparable bavure.
Oui, c'est juste un clin d'œil. Nous sommes très inégaux devant l'erreur et devant la norme, en fait. Je disais à mes étudiants, si vous commettez une erreur, pour vous, c'est une faute. Pour moi, c'est une coquille. Et en réalité, c'est là-dessus qu'on joue. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une partie d'enjeu dans l'enseignement de la norme à justement mettre effectivement un certain nombre de personnes à l'abri hein, de toute une série de jugements qui les dévalueraient par rapport à d'autres. Il faut gagner aussi le droit à jouer avec la langue et aussi à faire de l'humour, bien sûr.
Moi, ça me fait un peu réagir parce que j'ai l'impression que la langue, elle peut potentiellement appartenir à tout le monde et que les créations et l'originalité linguistique ne devraient pas être réservées aux personnes qui maîtrisent le mieux la langue. Et je crois que dans les faits, ben, ça ne se vérifie pas toujours parce qu'effectivement, on peut avoir des créations très intéressantes, des mots d'enfants, par exemple. J'en ai mis quelques-uns dans le MOOC Photomaton que tu as abordé tout à l'heure. Et donc, je demandais de repérer les écarts linguistiques dans les mots d'enfants. Il y a des néologismes, il y a des altérations de mots. Et parfois, ben, ça montre une certaine inventivité, originalité lexicale. Mais là où je rejoins Michel Francard, c'est que c'est vrai que le poids social de la norme linguistique est immense. Et donc, on a un devoir en tant que spécialiste de la langue et enseignant la linguistique ou le français, de vraiment faire en sorte que les personnes qu'on nous confie puissent augmenter au maximum leurs compétences linguistiques de manière à être vraiment perçues comme des personnes qui peuvent légitimement intervenir et prendre leur place dans des débats.
En vous écoutant, je me dis qu'il manque peut-être un sociologue ici autour de la table pour aborder à quel point la langue peut pour beaucoup de personnes être source de discrimination, d'intimidation, voilà, des personnes qui ont peur de mal s'exprimer, qui n'osent pas se présenter à certains endroits et qui en souffrent. Bon, nous avons plutôt des linguistes, mais j'imagine que vous avez quand même un point de vue sur le sujet aussi. Marie-Ève ?
Oui, c'est ce dont tu parles, c'est la glottophobie, hein, donc c'est la discrimination des personnes sur base de leur méconnaissance, manque de connaissances linguistiques, donc ça peut être à cause d'un accent très fort ou parce qu'ils font beaucoup de fautes de syntaxe ou des écarts lexicaux, donc effectivement ça peut porter préjudice vraiment à la légitimité de la personne. Et comment est-ce qu'on soigne cette maladie? Comment est-ce qu'on sort de sa glottophobie? Parce qu'il n'y a pas de psy pour aller guérir cette phobie-là. Donc comment est-ce que vous faites? Parce que le francophone est très, très glottophobe. Des études montrent ça, hein, qu'on va trouver moins légitime le discours de quelqu'un s'il le prononce avec un gros accent. Voilà. Bon. Comment est-ce qu'on soigne ça ? Bien. Une des possibilités, c'est de transformer le regard qu'on a sur l'écart. Hein, donc, déjà, didactiquement, on va dire l'écart, c'est ce qui permet de progresser. Donc, si vous faites des écarts de langue, si vous pouvez être corrigé par quelqu'un qui pourrait faire ça avec bienveillance plutôt qu'avec une intention discriminante, ça, c'est une manière, effectivement, de faire évoluer la maîtrise de la langue. Mais vous pouvez changer votre regard sur la faute. Donc, regardez les écarts linguistiques comme un linguiste va regarder les écarts linguistiques, c'est-à-dire un petit peu à la manière d'un entomologiste qui regarde les insectes, sans les juger. Donc, regardez l'écart linguistique comme étant quelque chose potentiellement qui vous fait réfléchir. Et puis ensuite, les considérer comme des phénomènes linguistiques intéressants, hein, qui témoignent effectivement d'une langue en circulation qui n'est pas toujours celle qui est normée. Et donc, si on a ce regard qui est un regard plus linguistique que normatif, hein, plus descriptif, avec une certaine curiosité linguistique, eh bien, on ne va plus regarder les écarts de la même façon.
La francophonie est sans doute le domaine linguistique qui a le rapport avec une norme unique qui est le plus centré de tous les univers linguistiques que je connais, en tout cas. Et cette centration se fait par rapport à quelque chose qui est nommé, là c'est très clair, c'est le français de France, mais encore plus souvent le français de Paris. Alors rien que dire que la norme, c'est le français de Paris, montre à quel degré de mythonicité on en est arrivé. Parce qu'il suffit d'aller 2 jours à Paris, on aura vite compris qu'effectivement, le français de Paris, c'est un mythe. Et donc, ce qui se passe, c'est que par rapport à cela, vous avez 2 possibilités. Soit vous dites qu'en fait, vous êtes en pleine adéquation avec cette norme mythique que vous croyez donc posséder et en même temps qui vous distingue des gens qui ne la possèdent pas. Soit vous constatez que cette norme vous échappe, ce qui est bien normal puisque c'est un mythe, mais par ailleurs, vous pensez qu'il y en a qui se la sont appropriées. C'est ça, en fait, le phénomène plus général d'insécurité linguistique. En fait, c'est de projeter vers d'autres une légitimité linguistique que vous vous refusez à vous-même. Et fondamentalement, des stratégies comme celle de voir la langue autrement, ce sont des stratégies absolument indispensables d'une part, mais que j'appelle parfois des stratégies de compensation par rapport à une attitude de suggestion et d'auto-dévaluation de ses propres pratiques. Donc un des mots d'ordre, c'est bien à un moment donné de réconcilier ou de concilier les francophones avec leur langue maternelle.
Cette légitimité nous ramène au tout début de la discussion, au texte de Sant'Antonio qui justement parlait du fait que lui, jugé écrivain illégitime, a atteint une certaine légitimité en 65 et puis encore plus après. Arnaud, Jérôme, vous, ça vous parle la question de qui est légitime pour parler, pour parler juste ?
Moi, ce que ça m'évoque et que je trouve intéressant, c'est que le terme de sécurité renvoie très très bien à la notion de sociologie et à l'idée que c'est quand on possède les codes, les normes et qu'on sait où on met les pieds, qu'on peut se permettre de se distinguer, parfois même en utilisant des fautes, pour s'acoquiner d'une certaine manière, pour se distinguer doublement, comme on dit en sociologie, c'est-à-dire avoir la possibilité de s'autoriser une petite faute de français, de s'autoriser un petit en mode ou genre en se disant « mais de toute façon, je fais partie d'une classe sociale qui maîtrise, je sais que je suis en totale maîtrise de la langue, donc je peux me permettre de parler avec des formes variées et parfois populaires, parce que je sais qu'on ne me taxera pas socialement de fautes, alors qu'en fait, si on est issu d'une extraction plus populaire, on aura peur de le faire, on va justement créer un nouveau phénomène qu'on appelle l'hypercorrectisme, c'est-à-dire qu'on va essayer de se corriger tellement qu'on va finir par faire des fautes. Et des fautes d'hypercorrection, c'est tous les gens, par exemple, qui accentuent les liaisons, parce qu'on sait que les liaisons sont une marque de distinction en français, hein, quand on les met aux bons endroits. Et donc on a des gens qui parlent en disant il est important de mettre ces feux de signalisation pour voir mais également pour être vu. Et donc c'est ce qu'on m'avait dit à mon permis de conduire parce que la personne qui me faisait passer mon permis de conduire avait ce sentiment de besoin de mise en valeur par la langue. On entend souvent ça aussi dans le français de la police ou de gens qui essayent de marquer, de surmarquer leur qualité linguistique, mais qui malheureusement n'ayant pas directement accès à un code lettré, le font un peu n'importe comment et se plantent. On appelle ça des hypercorrectismes. Et donc on est vraiment dans une vraie distinction qui fait que ceux qui ont le code peuvent se permettre même de l'enfreindre en fait. Je pense que dans la littérature, il y a parfois un peu de ça aussi. C'est qu'on se dit, moi je suis littéraire, j'ai bac plus 5, donc je peux me permettre de faire des mots, d'inventer des mots, de faire des fautes, etc. On dira que ce sont des licences poétiques, alors qu'en fait, si c'est quelqu'un d'extraction populaire qui le fait, on appellera ça des fautes. Et donc c'est problématique, quoi.
Il y a quand même une chose dont on n'a pas encore parlé, et peut-être je ferais mieux de ne pas en parler du tout, c'est l'Académie française. Peut-être on aurait dû la laisser de côté, là où elle mérite vraiment de rester. Mais voilà, je suis désolé, j'évoque ce nom là, que j'aimerais laisser dans une boîte au fond d'un trou, qui joue ce rôle de gardien du temple. Et qui, en fait, avec ce rôle de gardien, fait croire au temple. Fait croire en l'existence de ce mythe d'un Français de référence unique dont elle serait garante et qui, par sa simple existence, par le simple discours qu'elle tient, par exemple, on peut lui écrire en demandant « est-ce que ça se dit ? Est-ce que c'est correct ?» Elle publie elle-même des listes de « dites ceci, mais ne dites pas cela ». Et donc, elle a vraiment ce rapport normatif. Qui fait croire en l'existence d'un français pur, d'un français parfait, d'un français unique, cohérent, c'est-à-dire totalement centralisé, et qui crée tous les phénomènes dont on parle, l'insécurité linguistique, la glottophobie, et aussi une espèce de sentiment de supériorité dans le respect de cette norme mythique.
Il faut dire aussi que cette Académie française du Quai Conti est vraiment quelque chose de très franco-français, hein. Tout d'abord, on constate, en tout cas moi ça me frappe, vu non presque de l'extérieur en tout cas, combien il y a une différence entre son rôle officiel, qui est presque nulle. Hein. Donc la seule fonction officielle de l'Académie française, c'est de valider les propositions de néologie dans les domaines terminologiques. C'est la seule chose. Pour tout le reste, elle n'a absolument aucun pouvoir. Or, on entend en France surtout, mais aussi dans d'autres pays francophones, l'idée que l'Académie, en fait, régit l'usage. Bon. Et au fond, plusieurs personnes en viennent à dire « Mais voilà, qu'est-ce qu'on en fait de cette Académie qui coûte cher en plus aux Français, paraît-il » Certains disent « Mais pourquoi ne pas l'ouvrir aux francophonies en général, etc. » J'ai envie de dire « Je crois que non, il ne faut surtout pas commencer à vouloir ajouter des francophones à l'intérieur de cette institution-là. Il faut bâtir un autre type d'institution. » Parce qu'il existe quand même des académies qui fonctionnent bien. Donc l'Académie de la Crusca, par exemple, est une académie qui, en fait, propose pour la langue espagnole toute une série de réflexions, d'études de l'usage, qui suit la langue, qui ne veut pas nécessairement la régenter, qui se préoccupe aussi des autres formes que la langue prend dans d'autres pays, en Amérique du Sud, etc. Donc qui joue vraiment son rôle. Elle accompagne les locuteurs, elle documente les usages, elle essaye un petit peu de voir ce qui bouge à gauche, à droite, et dans l'ensemble des pays où la langue est pratiquée, Amérique du Sud comme Europe, etc. Donc il y a des institutions qui réellement font du bien aux utilisateurs des langues et à ces langues en particulier. Je crois que c'est plutôt vers des modèles comme ceux-là qu'on pourrait s'orienter plutôt que de revivifier une vieille dame qui finalement est bien tranquille là où elle est.
On ne reprendra pas la fin du texte de San Antonio. Le moment est venu de conclure. Il me semble que cette conclusion tourne autour d'une relativisation de la norme, mais pas de son évacuation. La norme n'est finalement peut-être pas si figée, si unique que ça, mais il en faut. Et de l'importance de la liberté, mais de la liberté par rapport à une norme. Et peut-être un troisième mot qui revient beaucoup, c'est le contexte.
Moi, c'est le mot contexte sur lequel j'ai envie de rebondir, parce que ça me semble vraiment être la chose que je rêverais de voir étudier plus à l'école. C'est la langue en contexte. Le problème, c'est qu'on a tellement de problèmes de grammaire et d'orthographe à résoudre à l'école, ça prend tellement de temps, de place dans le cours de français, qu'il y a presque plus de place pour faire véritablement de la langue, c'est-à-dire comment on crée du sens, comment on l'articule, comment on l'enrichit, comment on le développe. Et cette question ne peut être abordée qu'en contexte. Et justement, quand vous faites de la grammaire, quand vous faites de l'orthographe, vous étudiez toujours hors contexte. Vous mettez une phrase au tableau, et pour savoir s'il faut accorder ou pas, vous n'avez besoin de rien d'autre que ce qui se passe à l'intérieur d'une seule phrase. Alors un peu plus tard, on fait du texte et on étend ça au paragraphe, mais les contextes de communication sont multiples, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus grand que tout ça. C'est inscrit quand même dans les programmes de français, de tenir compte des contextes, mais je trouve que l'enseignement de la langue gagnerait énormément à ce qu'on montre comment c'est le contexte qui joue le plus, enfin on ne va pas faire des concours, mais joue comment ce contexte joue sur le sens.
Merci beaucoup pour cette table ronde passionnante, évidemment trop courte par rapport à toutes les portes que nous avons ouvertes, mais je pense qu'il y a déjà de quoi réfléchir et de quoi donner envie de jouer avec la langue et de la faire vivre.
Merci également à Pierre, Julie, Mélanie et Christian de la Maison du Livre, à Noé et Thibaut du Xara qui nous accompagnent techniquement et joyeusement, à Radio Panique qui nous diffuse gracieusement. Nous nous quittons avec une chanson de Kassem Wapalek qui rappe et slame comme un orfèvre avec le sens et les sons des mots. En commentaire de ce morceau sur YouTube, Kéran a écrit « J'avais 13 piges quand je l'ai connu il y a 9 ans et j'ai kiffé direct. Il m'a fait aimer le français et aussi réussir mes poésies à l'école et un exposé sur un poète. »
Peu d'écrivains survivent et j'écris vers sur vers, mais rassurez-vous, j'assure 20 sur 20, Kassem s'en revient pour vous servir, je virevolte et tu virgules timing, à vous que t'as aimé, non? Sans mentir, c'était mon tour, sauter mon tour, c'était me taire, et si me taire, c'était mentir, sauter mon tour, c'était mentir, c'est élémentaire. Me demande pas ce que vous êtes en ma terre, cet amateur, c'était maintenant, c'était mon tour. Soit cet homme a eu tort, soit c'était un menteur. Je l'ai sauté, mis à terre, boire à sa santé ma terre. Mais en grand sentimental, je jette un centimètre et pleure pour faire pousser sa pierre. Ton bal, pas mal, le fond est fin, la foi fun est profond. Il prend forme, le flot prend feu, mais performe, et la rime perfore, t'es hyper fort. Mais quand tu touches le fond, tu perds la forme, la ferme. On dirait que ton flot à la flemme, ferme-la. Tu peux pas fuir mes lignes.
ni faire le malin. C'est trop bien formulé, mon flow va vers malin. Toute la formule 1 rapide et fort malin. J'ai même le sens de la formule 1. Même les mâles, même les moules et les poules mouillent. Les pouilles, les mômes, la femelle ou l'homo, la mamie. Même les mots, même me l'ont dit. En moi mieux, mais longui et muma mélodie. A même eu mal au dos, ré mi fa sol la si. Ma rime est facile, à ma façon je l'assassine et l'assassonne. Alors je la laisse ainsi, c'est pas là ce sas ici. Reste ici, nous on s'associe et s'insensé Nancy. Ainsi on s'en sort mieux et ça tue c'est non. Mes dédicaces, des culs, non. Mes dédicaces, des culs, non plus. Mes dédicaces, casse des culs. Je dédicace à qui stiqueuse. Disque va se fourguer comme dédiqueuse. À moitié pris, j'ai les mains moitié pris. Au pire je me tiens prêt. Mais ce disque risque puisque ce disque disque. Ceux qui se disent qu'on se dise quand ils discutent. Sans long discours ni dispute. J'avais des rites avant d'avoir des spots. Ni mouton ni despote. Je ne fais pas du tout.